VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 18 décembre 2023. Il est 5h30 temps universel. Voici le sommaire. Dernier jour de campagne électorale ce lundi en RDC avant l'élection présidentielle prévue le 20 décembre. Le Kenya se dissocie fermement d'un opposant congolais qui a annoncé à Nairobi la création d'une alliance politico-militaire contre le pouvoir de Kinshasa. Les Tchadiens ont voté dimanche pour ou contre une nouvelle constitution censée ouvrir la voie à des élections et un retour des civils au pouvoir.
En tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté.
Guerre au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont établi dimanche une base dans une grande ville du centre-est où des milliers de personnes avaient trouvé refuge. La Corée du Nord a tiré ce lundi un missile balistique intercontinental capable d'atteindre les États-Unis, a alerté un haut responsable du ministère japonais de la Défense. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nathalie Barge, mais pour commencer, le journal. Au Tchad, les électeurs étaient appelés hier aux urnes afin de voter pour ou contre une nouvelle constitution. La dite constitution est censée ouvrir la voie à des élections et à un retour des civils au pouvoir en 2024. Les précisions avec Jean-Roger Bion.
Le oui semble favori. Le pouvoir militaire a mené une campagne avec de gros moyens et s'est assuré le ralliement d'un de ses principaux opposants, Succès Masra, qui appelle à voter oui face à une opposition divisée. Une partie de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter ce référendum qu'elle considère comme un plébiscite destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et perpétuer une dynastie inaugurée par son défunt père il y a 33 ans. Ce référendum vise à légitimer purement et simplement la dynastie qu'on voudrait nous imposer, a déclaré Max Longa, coordinateur de Wakitama, une des deux principales plateformes des partis et organisations de la société civile hostile à la junte. Les résultats provisoires doivent être annoncés le 24 décembre. La Cour suprême devra les valider 4 jours plus tard.
Au Soudan, les paramilitaires des FSR, Forces de soutien rapide, qui sont en guerre depuis 8 mois contre l'armée soudanaise, ont établi dimanche une base dans une grande ville du centre-est où des milliers de personnes avaient trouvé refuge. Les FSR ont établi des positions dans le quartier de Malakeya, dans l'est de Wat Madani, a indiqué un témoin. Vendredi, les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont gagné cette ville située à 180 km au sud de Khartoum, devenue un refuge pour plus de 86 000 déplacés fuyant les combats dans la capitale selon l'ONU. Chef-lieu de l'État d'Al-Jazira, Wad Madani compte plus de 270 000 personnes ayant besoin d'aide et constituait jusque-là un hub humanitaire d'après les Nations Unies. Gerco van Deventer, otage sud-africain de 48 ans, enlevé par les djihadistes en Libye en novembre 2017, puis transféré au Mali, a été libéré à l'issue de plus de 6 ans de détention. L'infirmier de formation est actuellement soigné à Alger, selon des sources sécuritaires et humanitaires. Gerco van Deventer, qui travaillait pour une société de sécurité, avait été kidnappé en Libye le 3 novembre 2017 alors qu'il se rendait sur un site de construction d'une centrale à environ 1000 km de Tripoli. Il a ensuite été transféré au Mali. En RDC, ce lundi est le dernier jour de campagne électorale. Plusieurs leaders politiques et candidats à la présidentielle du 20 décembre seront sur le terrain pour tenter une dernière fois de convaincre les électeurs. Le point avec John Lyndon, l'un de nos envoyés spéciaux à Kinshasa.
Pas moins de 44 millions d'électeurs inscrits sont attendus aux urnes le 20 décembre pour les élections présidentielles, parlementaires, provinciales et municipales. Pour la présidentielle, Félix Tshisekedi brigue un second mandat. En face, une vingtaine de candidats dont Martin Fayulu, Moïse Katumbi et le docteur Denis Mukwege. Environ 100 000 personnes se présentent aux 4 scrutins. L'immensité du pays avec certaines parties en guerre rend la mission de la CENI très compliquée pour la distribution du matériel de vote dans plus de 175 000 isoloirs. Patricien Seya de la commission électorale a reconnu qu'il y a encore de petits réglages à faire, mais assure que tout sera prêt le jour du scrutin. Un grand rassemblement de soutien au président sortant Félix Tshisekedi est prévu ce lundi au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Samedi, Human Rights Watch a mis en garde contre des violences qui risquent de compromettre la tenue du scrutin. L'ambassade des États-Unis à Kinshasa a invité ses ressortissants à éviter les grands rassemblements et les manifestations. John Linden, envoyé spécial de VO Afrique à Kinshasa.
Toujours en rapport avec la situation politique en RDC, le Kenya s'est fermement dissocié dimanche d'un opposant congolais qui a annoncé à Nairobi la création d'une alliance politico-militaire visant à renverser le pouvoir de Kinshasa. Plus de détails avec Rosine Munezero.
Le Kenya se dissocie fermement de toute déclaration ou activité susceptible de nuire à la paix et la sécurité de la République démocratique du Congo, pays ami, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, dans un communiqué. Selon lui, le Kenya a entamé une enquête pour déterminer l'identité des auteurs du communiqué et dans quelle mesure leur déclaration se situe hors du domaine de la liberté d'expression garantie constitutionnellement. Corneille Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale de la RDC, devenu opposant en exil, a annoncé vendredi depuis Nairobi la création d'une alliance avec au moins 9 groupes armés, dont le M23. L'objectif serait, selon lui, de sauver la RDC et d'y garantir le retour de la paix. L'ambassadeur du Kenya en RDC a été convoqué dès le lendemain au ministère des Affaires étrangères. Et Kinshasa a rappelé ses ambassadeurs à Nairobi et auprès de la communauté des États d'Afrique de l'Est, selon le porte-parole du gouvernement de RDC, Patrick Muyaya.
Au Sénégal, la gendarmerie a annoncé avoir intercepté une centaine de migrants clandestins en partance pour l'Europe. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations a indiqué que plus de 60 migrants sont portés disparus et présumés morts après le naufrage de leur embarcation. Le point avec Firmin Koyawida.
93 candidats à l'immigration clandestine ont été appréhendés entre vendredi et samedi lors d'une série d'opérations menées dans différentes localités des régions côtières de Thiès dans l'ouest et Saint-Louis dans le nord, affirme la gendarmerie sénégalaise. Ils comprennent, toujours selon la gendarmerie, 83 Maliens, 7 Gambiens et 3 Mauritaniens, des ressortissants de pays voisins. Elle dit inscrire ces interpellations dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par ailleurs, au moins 61 migrants sont portés disparus et présumés morts après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations en Libye. L'OIM indique qu'il s'agit en majorité de ressortissants du Nigeria, de la Gambie et d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Plus de 2250 personnes ont perdu la vie en Méditerranée centrale cette année, a déploré Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un véhicule du convoi du président Joe Biden a été percuté par une voiture dimanche, surprenant le président américain au moment où il quittait son quartier général de campagne dans le Delaware. La collision d'une berline avec un SUV du convoi positionné à une intersection proche du quartier général de campagne à environ 40 km de M. Biden a provoqué un fort bruit de détonation. Des agents ont aussitôt intercepté la voiture et précipité le président dans un véhicule qui l'attendait, l'éloignant du bâtiment situé dans le centre de Wilmington. Le président et la première dame vont bien, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche. La Corée du Nord a tiré ce lundi un missile balistique de longue portée, potentiellement capable de frapper les États-Unis, ont annoncé Séoul et Tokyo, quelques heures seulement après un autre lancement, tard dans la nuit, d'un missile à courte portée. L'armée sud-coréenne a annoncé avoir détecté le lancement du missile lancé depuis la région de Pyongyang, estimant qu'il avait parcouru 1000 km avant de s'abîmer dans la mer du Japon. Le Japon a lui déclaré qu'il s'agissait probablement d'un missile de classe ICBM. Ce type de projectile pourrait avoir la capacité de voler plus de 15 000 km et dans ce cas, tout le territoire des États-Unis serait à sa portée, a fait savoir un haut responsable japonais. Ces deux tirs consécutifs interviennent quelques jours après des mises en garde de Séoul et Washington qui ont averti Pyongyang que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Ces lancements, comme les autres tirs de missiles balistiques effectués par Pyongyang cette année, constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré un porte-parole du département d'État dans un communiqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce lundi sur un nouveau texte appelant à une cessation urgente et durable des hostilités à Gaza au moment où Washington montre des signes d'impatience face à son allié israélien. Le nouveau projet de texte préparé par les Émirats arabes unis appelle à une cessation urgente et durable des hostilités pour permettre un accès sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il exige en particulier que les parties au conflit facilitent l'entrée et la distribution de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza, par la terre, la mer et les airs. Le projet affirme également son soutien à la solution à deux États et souligne l'importance d'unifier la bande de Gaza et la Cisjordanie sous l'égide de l'autorité palestinienne. Au moins 12 personnes ont été tuées dimanche dans une attaque armée contre une fête organisée par des jeunes dans la ville de Salvatierra, dans le centre du Mexique, ont annoncé les autorités locales. Les autorités ont également fait état d'une dizaine de blessés transférés vers des hôpitaux. Une personne présente à la fête, qui a requis l'anonymat, a déclaré que 6 assaillants munis d'armes à feu sont arrivés sur les lieux et ont commencé à circuler parmi la centaine de jeunes qui participaient à l'événement. Selon un consultant en sécurité, ce fondant sur des déclarations des familles des victimes, l'un des organisateurs de l'événement aurait été visé par une tentative d'extorsion d'une organisation criminelle, ce qui pourrait être un possible mobile de l'attaque. Les Irakiens élisent ce lundi leur conseil provincial, premier scrutin du genre en une décennie qui servira à consolider les partis chiites pro-Iran au pouvoir et à jauger leur assise populaire. Quelques 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager 6 000 candidats, se disputant 285 sièges dans les provinces concernées. Passé dans l'opposition, l'influent leader religieux chiite, Moqtada Sadr, boycotte ces élections se déroulant dans 15 provinces. Selon certains experts, la participation sera l'indicateur ultime de satisfaction, la question étant de savoir si le populisme économique du gouvernement, la distribution d'emplois dans le secteur public marche et attire ou non le jeune public. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nathalie Barche.
Au Nigeria, le gouvernement a ordonné l'exécution de 2 contrats de 6,32 milliards de naira pour l'achat et la maintenance d'équipements en faveur de 4 aéroports. Le premier contrat de 4,1 milliards de naira porte sur la maintenance des équipements des terminaux de passagers dans des aéroports internationaux pendant 5 ans. Le second contrat de 2,23 milliards de naira porte sur l'achat d'équipements de navigation pour l'aéroport de Port Harcourt, visant à améliorer la communication et la sécurité dans l'espace aérien. Au Mozambique, les députés ont adopté un projet de loi pour un fonds souverain destiné à fructifier les recettes provenant des exportations de gaz naturel liquéfié. Pendant les 15 premières années, 40% des recettes provenant des exportations seront versées au fonds et le reste sera alloué au budget de l'État. Les revenus nets provenant des projets gaziers déjà approuvés devraient monter progressivement durant les prochaines années pour culminer à plus de 6 milliards de dollars par an dans les années 2040. Le FMI a indiqué que la Somalie a obtenu une réduction de dette irrévocable de 4,5 milliards de dollars dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Les administrateurs du FMI ont précisé que le pays a fait des progrès satisfaisants, notamment à travers la mise en œuvre d'une stratégie de réduction de la pauvreté et a maintenu une bonne gestion économique malgré la sécheresse, une invasion de criquets et la hausse des prix des denrées alimentaires.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Tchad, plus de 8 millions d'électeurs sont allés aux urnes hier, notamment pour choisir la forme de l'État. Après le vote des nomades samedi, c'est la population civile qui a voté dimanche. Le référendum permettra de se prononcer soit pour l'État unitaire décentralisé, soit pour l'État fédéral. Le scrutin divise les Tchadiens, ce qui pourrait jouer sur le taux de participation. André Kodmadinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Après 2 ans et demi du régime militaire, le Tchad s'achemine vers le retour à l'ordre constitutionnel, bien que plusieurs acteurs, dont l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padake, ont appelé au boycott. Quelques électeurs ont fait le déplacement dans plus de 22 700 bureaux de vote installés sur l'ensemble du territoire. Le président de transition, Mohamed Idriss Déby, qui a accompli son devoir civique dans un bureau de vote installé devant son palais, estime que ce dimanche 17 décembre est une journée historique et pleine d'espoir pour les Tchadiens, puisque c'est un grand pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il se réjouit de ce pari gagnant.
Je suis avec une très grande attention la campagne référendaire. Et le constat que je fais, la campagne s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Donc, en tant que président et garant de la transition, je veillerai personnellement à ce que le choix souverain du peuple tchadien soit respecté.
C'est dans le bureau de vote numéro 30 situé au quartier Abena, dans son fief électoral, que Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, est venu accomplir son droit civique.
Vous vous souvenez qu'il y a avait des constitutions qui ont été approuvées sans le référendum. Ces constitutions ont quand même permis à de nombreuses personnes d'être candidats aux élections. Nous avons lutté pour obtenir le droit de faire voter la constitution par un référendum. Je crois que chaque Tchadien a le devoir, en tout cas d'accomplir ce devoir citoyen.
Quelques électeurs se sont prononcés sur le déroulement de ce scrutin.
Ils nous ont plusieurs fois appelés à la manifestation et voilà, les événements se sont passés. Nous avons ramassé les risques. Je m'abstiens, ni oui, ni non.
J'ai accompli mon devoir citoyen et cela nous permettra, n'est-ce pas, de refonder notre pays et, n'est-ce pas, de la doter d'une constitution qui s'inspire de la constitution de 96. Donc moi, je suis un partisan de oui parce que c'est une constitution qui prend tout en compte.
Moi, j'ai voté non. Trop, c'est trop parce que chaque fois, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gens qui ont au pouvoir jusqu'à jour pendant 30 quelques années là. C'est trop quand même.
Docteur Succès Masra répond à ceux qui pensent que voter oui pour cette constitution, c'est cautionner la dynastie au Tchad.
La constitution, ce n'est pas le choix des dirigeants. Certains veulent aller peut-être vite en besoin. La constitution doit permettre à chaque Tchadien, chaque Tchadienne qui demain réunit les conditions de pouvoir être candidat. Ensuite, quand on viendra aux élections, on saura qui les Tchadiens décideront pour les diriger. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection.
Le scrutin s'est déroulé dans le calme entre 6h et 17h, heure de N'Djamena. Les partisans de l'État unitaire chantent déjà la victoire, mais la véritable bataille reste le taux de participation, comme en témoignent quelques présidents de bureaux de vote.
On a commencé à 6h. Les gens viennent voter normalement. Certains qui ont leurs photos, mais qui n'ont pas les cartes d'électeurs aussi, qui sont nombreux la même. Et on ne peut pas les laisser voter.
L'engouement n'est pas tellement vif ici. Vu la liste qu'on nous a donnée ici, le carré 12 à 110 à 120 électeurs sur la liste. Mais depuis 6 heures maintenant, jusqu'à là, on n'a pas pu encore enregistrer 50 électeurs.
Il appartient à la commission chargée d'organiser cette consultation populaire. Le trancher, mais pas avant une semaine. André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Alors que la campagne présidentielle s'achève en République démocratique du Congo et à 2 jours de cette présidentielle du 20 décembre, VOA Afrique s'intéresse au rôle des femmes en politique et notamment dans cette campagne électorale. Leur rôle, leurs attentes et les obstacles à leur participation, c'est dans ce reportage de John Lyndon et de nos envoyés spéciaux à Kinshasa.
Des champs de mobilisation, des opérations de porte-à-porte menées par des femmes, les partis politiques engagés dans la campagne électorale ici à Kinshasa semblent n'avoir négligé aucune stratégie pour convaincre le maximum d'électeurs. C'est le cas au quartier général de l'ECID, Engagement citoyen pour le développement, parti de Martin Fayulu. Irène fait partie de ces femmes qui veulent le changement et disent souffrir à cause de la cherté de la vie.
Le peuple vit qu'ils sont fatigués. Ils sont tellement fatigués de tout ce qu'ils vivent. De tout ce qu'ils vivent, ils ont vraiment fatigué. Ils veulent le changement.
Mais en face, il y a d'autres femmes, celles de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ne jurent que par la gloire et la longévité du candidat président Félix Tshisekedi. C'est le cas de ces femmes militaires du camp Tchatchi qui prennent très au sérieux leur rôle dans la campagne. Maman Micheline est l'une d'elles.
Nous accueillons notre papa Fatshi avec joie. Nous, les femmes de soldats Léman, nous parlons avec nos maris à Goma qui se battent pour la patrie. Ils vont bien et donc nous allons bien aussi.
Jusqu'aux dernières heures de la campagne, on les verra certainement encore plus nombreuses à sillonner les rues aussi bien à Kinshasa que dans le reste du pays pour convaincre les électeurs indécis à voter pour leur candidat. Pour cette élection présidentielle en RDC, deux femmes se sont lancées dans la course. L'une d'elles, Joëlle Bilé, s'est en fin de compte ralliée au président Félix Tshisekedi. Elle estime que le faible pouvoir d'achat des femmes constitue un handicap pour leur percée en politique. À cela, il faut, dit-elle, ajouter des pesanteurs culturelles et traditionnelles. À la CENI, c'est son rapporteur Patricia Nseya qui nous reçoit. Elle promet un scrutin transparent.
Nous, la CENI, nous mettons tout en œuvre pour avoir des élections transparentes. Je pense que les candidats, les électeurs, toutes les parties prenantes doivent aussi nous aider quant à cette affaire.
Quelques 44 millions d'électeurs inscrits sur environ 100 millions d'habitants sont attendus aux urnes le 20 décembre. Félix Tshisekedi brigue un second mandat. Face à lui, une vingtaine de candidats pour ce scrutin très attendu, organisé par la CENI, ici derrière moi. John Lyndon, Eddie Sango, Trésor Matondo, envoyé spéciaux de la VOA Afrique à Kinshasa.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Cameroun, le PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale de l'opposant Cabral Libi, classé troisième lors de l'élection présidentielle de 2018, est secoué par des dissensions internes. Deux personnalités se disputent les rênes du parti. Le député Cabral Libi est contesté par le fondateur du parti, Robert Kona. Les deux factions sont attendues au tribunal le mois prochain. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Nous observons qu'il y a un point de presse qui s'apprête à être tenu, mais le PCRN, auquel j'appartiens, n'a convié la presse à rien.
Fabrice Tweli Biamou, député suppléant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, tente d'interrompre la conférence de presse à Yaoundé de Robert Kona, fondateur du dit parti.
Non.
Le député suppléant est vite expulsé de la salle par la police. Robert Kona, 80 ans, président fondateur du PCRN, fait alors sa principale annonce à la presse.
On vous annonce que d'ici mars, au plus tard, à Kaïd, à l'extrême nord Cameroun, il se passera donc le choix de notre candidat à l'élection présidentielle prévue en 2025. Entre-temps, on va réviser le texte de base, le statut et le règlement intérieur de notre parti.
La contestation de cette déclaration survient 48 heures plus tard. Fleury Massardine se présente comme membre fondateur du PCRN et proche de Cabral Libi, à qui il est reproché de profiter seul du parti. Albert Fleury Massardine, membre fondateur du PCRN.
Dire que le président Cabral ne lui reverse rien là, ça ne se dit même pas. Vous ne pouvez pas créer un mouvement et vous voulez la mort du mouvement. Non, il ne doit pas être autonome puisque ces gens-là sont envoyés par d'autres. Prenons Guané là, sur le fichier national du PCRN, il n'est nulle part. Ça c'est l'ingérence même de quelqu'un à poursuivre d'abord en justice.
Cabral Libi, 43 ans, a été adoubé par le parti Univers pour être candidat à l'élection présidentielle. En 2019, l'administration a refusé de légaliser la formation que Cabral Libi souhaitait créer sous l'appellation 11 millions d'électeurs. Cabral Libi a dû se rabattre au PCRN pour se présenter aux élections législatives. Il prévoyait organiser un congrès ordinaire du PCRN à Kribi, dans le sud du Cameroun. Gaba Madiri, militant du PCRN.
Malgré les sollicitations de la part de Papa Kona à une médiation, le camarade Cabral a insisté avec le projet de Kribi. Et nous sommes donc obligés de demander au sous-préfet de suspendre cette décision d'autorisation à la manifestation publique parce que nous avons un problème interne que nous devons régler. Et j'ai dit, le gros problème pour nous, les Sahéliens, c'est qu'il faut respecter son prochain. Nous avons constaté qu'on veut arracher à ce papa le titre de père fondateur, du président fondateur.
Les autorités administratives ont interdit la tenue du congrès du PCRN pour menace de troubles à l'ordre public. Pour Cabral Libi, qui dit avoir été investi président du PCRN à l'issue d'un congrès tenu le 11 mai 2019, le congrès de Kribi a été reporté à une date ultérieure. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Alors que les villes du Rwanda ont du mal à gérer les déchets ménagers, les jeunes de la ville de Butare, dans le sud du pays, se sont engagés à traiter ces déchets ménagers pour mieux protéger l'environnement. Jean Damascène Manishimwe est allé à la rencontre de ces jeunes. Voici son reportage.
Ils sont des dizaines de jeunes, membres de l'association Green Kea, qui traitent les déchets ménagers qui viennent de partout dans la ville d'Ourouye, située à 130 km de Kigali, la capitale. Alain Christian Ruzindana nous explique comment débuter cette opération.
Quand les déchets arrivent aussi ici, on sépare les déchets, ceux qui sont organiques, déchets organiques et les déchets inorganiques. Les déchets organiques sont mis en andée pour le compostage. Et au bout de 60 jours, on est prêt à produire un compost qui est mis en sac et vendu. Et puis les déchets inorganiques, on sépare aussi les plastiques à part, les métaux à part, les cartons et autres choses à part. Et on les compacte et on les vend aux autres industries qui traitent et qui recyclent les déchets.
Débuté en 2016, ce projet des jeunes d'Ourouye a déjà profité aux agriculteurs qui se réjouissent d'un meilleur rendement agricole grâce à l'utilisation de l'engrais organique produit par cette association des jeunes.
Ici, on nous donne de l'engrais organique de qualité. Après l'avoir utilisé, notre production agricole a sensiblement augmenté. Nous acheminons une grande production au marché.
La création de cette association de traitement de déchets réjouit aussi de façon particulière les jeunes de la ville d'Ourouye. Environ 50 d'entre eux ont trouvé de l'emploi et leur vie s'est améliorée. Félix Naokulidiayo est l'un d'eux. Avec ce travail, je me suis développé. Avant de venir ici, j'étais chômeur. Je ne faisais rien, mais aujourd'hui, j'ai pu acheter du bétail. Je couvre aisément tous mes besoins et ceux de ma famille. L'impact de ce travail des jeunes d'Ourouye a dépassé cette localité, puisqu'il a aussi eu un impact sur l'environnement de façon globale. C'est ce qu'explique l'initiateur de ce projet.
Je pense que la première chose comme impact qu'on a eu, c'est sur la communauté environnementale. Maintenant, les déchets sont mieux traités. Il n'y a pas de problème d'hygiène, il n'y a pas de mauvaise odeur qu'il y avait. Et on le fait d'une manière qu'on protège les sources d'eau. Il y avait ce problème aussi. Et les déchets ne sont plus brûlés. Donc on a eu l'impact sur l'hygiène, cet endroit, mais aussi la réduction des gaz à effet de serre qui étaient produits.
Avec ce projet, les jeunes de Ourouye au sud du Rwanda ont voulu donner notre message. La protection de l'environnement incombe à tout un chacun et pense qu'aucune initiative, si petite soit-elle, ne doit être négligée. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Et c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24, c'est sur notre site internet voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.